voulant demander à Dieu sa bénédiction. Une fois encore, ô notre Dieu, nous élevons nos yeux vers toi pour te rendre grâce et te bénir parce que tu as été avec nous dans ces heures passées et tu seras avec nous aujourd'hui. Dans cette heure-ci, nous avons besoin de toi. À chaque instant, à chaque moment, que tu nous renouvelles par ton esprit, que tu purifies nos pensées, que tu les rendes captives de l'obéissance du Christ, et que par ta parole que nous allons méditer, nous puissions nous laisser instruire, corriger et édifier, afin que personne ne quitte ces lieux sans avoir reçu la bénédiction qui enrichit, la bénédiction qui vient de toi et à laquelle tu n'ajoutes aucun chagrin. Dissipe toutes les ombres, nous plaçons cette rencontre sous le précieux sang du Seigneur Jésus et nous savons qu'à l'abri de ton sang, nous serons aussi préservés de toutes les attaques de l'adversaire, du menteur, du prince du doute, du prince des ténèbres, alors que tu veux que nous soyons des enfants de lumière, des enfants réveillés et éveillés aux vérités spirituelles. Que ta grâce nous soit donnée et à l'avance, nous te louons et nous te bénissons parce qu'au nom de Jésus, il en sera ainsi. Amen. Nous voilà arrivés à ce dimanche matin, 21 février de cette année de grâce 1988, où nous traitons ce sujet, quels sont les caractères d'un réveil spirituel, et où nous poursuivons le développement de ce premier volet, l'autel rétabli sur son emplacement ou sur ses fondements. Je pense pouvoir dire ce matin que c'est vraiment ensemble que nous avons bâti cette retraite. Quand il s'agit de construire un édifice, plusieurs questions doivent être réglées. Il faut d'abord savoir si nous voulons être nous-mêmes l'architecte, si nous croyons assez capables pour construire, ou bien si nous allons confier l'édification de cette demeure à un architecte. Quel a été notre principe? Ou quel est le principe chrétien? Est-ce que nous serons nous-mêmes les architectes, ou bien est-ce que nous préférons consulter un architecte? Le psaume 127 nous donne une réponse. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain, ce sera raté. Eh bien, si cette retraite est ratée, c'est alors que j'ai voulu être moi l'architecte. Alors c'est zéro. Je fais moi-même cette critique. Mais, vous le savez, nous avons cherché l'architecte, dès le début, la personne du Seigneur, et c'était Jésus. Parce que nous savons d'avance qu'hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Oh, on peut faire du bruit, hein, mais c'est la cymbale qui retentit. Il nous fallait le saisir. Mais souvenez-vous toujours de cela. Puis, il nous faut aussi, quand on veut bâtir quelque chose, sur quoi est-ce qu'on va bâtir? Il nous faut un terrain. Alors, il se présente à nous, dans l'Écriture, deux terrains. C'est Jésus, de nouveau, qui nous enseigne. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand on veut bâtir la maison, il y a deux terrains, deux possibilités. Oh, il y a le sable, c'est tellement beau le sable. Hein. Mais bâtir sur le sable, si ça va le sable pour des vacances, c'est un peu dangereux si nous voulons y bâtir une maison. Ça va pour un temps heureux, un temps convenable, mais ce n'est pas le sable que nous avons choisi, c'est le roc. Mais évidemment, quand on veut bâtir sur le roc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut creuser. Et peut-être que certains ont trouvé que c'était pénible, cette retraite. Pour quelle raison? Parce qu'on ne voulait pas bâtir sur le sable. De mes idées personnelles, j'aurais pu vous offrir toutes sortes d'idées, hein, ne pas vous faire travailler, etc., et puis je vous donne du tout cuit. Non, ce n'était pas ma pensée, je voulais que vous-même, vous y travailliez. Alors, on a creusé pour trouver le roc. Et nous voulons bâtir tout ce que nous enseignons. Nous voulons que vous puissiez dire, c'est pas M. Racine qui nous a dit ça. Parce que ça, oubliez-moi, hein, c'est la parole. Nous l'avons trouvé, vous, dans la parole. Nous avons creusé ensemble. Nous avons été des ouvriers ensemble. Ouvriers avec Dieu. Moi, je ne suis qu'un ouvrier. Alors, donc, il a fallu voir quel terrain nous voulions choisir. Et nous avons choisi le roc. Et je veux croire que vous aussi, vous avez bâti votre retraite dans ces journées sur le roc. Non pas sur nos idées personnelles. Puis, alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore? Pour bâtir, il faut des matériaux. Il faut trouver des matériaux. Alors, les matériaux, il fallait les chercher dans, peut-être dans une carrière, et puis il faut les amener sur le terrain. Nous avons le terrain, le Seigneur est notre terrain, et puis il nous a donné le terrain, mais maintenant on amasse les matériaux pour pouvoir ensuite construire. Et ces matériaux, il ne faut pas que ce soit des matériaux de bonne qualité d'abord, et puis ensuite, moins cher, hein, parce que oui, on a mal calculé son budget, et c'est comme ça, par exemple, la maison où nous sommes, où nous habitons, à Cedar, au Cedar Plaza, le début a été bien construit, c'était de bons matériaux, puis après, pour construire le reste des 10 étages, ils ont pris du moins bon. Comprenez-vous? Parce qu'ils n'avaient pas assez de finances, d'argent. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous dit que quand on veut bâtir, il faut voir si on peut aller jusqu'au bout. Il faut d'abord s'asseoir. Alors, ces matériaux, nous désirons que aussi bien les matériaux de base que les matériaux qui entrent dans la construction soient tous de la même valeur. Et là, nous avons un texte qui nous dit qu'il ne faut pas de mélange, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas avoir des matériaux qui soient mélangés. Nous voulons des bons matériaux pour construire, que nous puissions trouver dans l'Écriture vraiment la valeur de chacune des pierres que nous mettons sur l'édifice. Parce qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de communion vraiment entre Christ et Bélial. C'est le chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens. Puis donc, il faut les rassembler. Eh bien, ces matériaux, nous les avons pris dans la carrière biblique. Que ce soit dans la Genèse, que ce soit dans l'Exode ou le Lévitique, non, enfin, je ne vais pas vous réciter tous les noms des livres de la Bible, mais nous ne sommes pas sortis ou de l'Ancien Testament, qui forme les Écritures, la loi, les psaumes et les prophètes. Et évidemment, aussi les évangiles et les écrits de l'apôtre. Alors, nous sommes allés un peu à travers toute la Bible pour rassembler les meilleurs matériaux. Nous les avons pris uniquement dans l'Écriture. Alors, nous les avons rassemblés. C'était aussi tout un travail, hein, d'aller des chroniques dans des rois dans les chroniques, des chroniques, d'aller aussi chercher dans Jérémie et dans Ézéchiel, dans Daniel, qui nous sommes allés encore dans bien d'autres endroits, mais ce sont tous des matériaux qui ont la même valeur. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, que vous preniez à la première page ou à la dernière. Mais aussi, il nous fallait, on y arrive ce matin, un permis de construire. Peut-être qu'il fallait d'abord commencer par là. Le permis de construire, on a les éléments et tout ça. Et le permis de construire, qu'est-ce qu'il a donné ici, pour ce réveil? C'est Cyrus. Quelqu'un qui était mandaté par Dieu pour dire, vous pouvez y aller, je vous donne l'autorisation. Et il faut que le réveil vienne vraiment de Dieu. J'ai pris une image un peu pour essayer de vous faire comprendre. Mais il faut aussi des ouvriers et il faut des chefs. Alors, j'ai le permis de construire, je sais où est le terrain, j'ai les matériaux, tout cela, mais il faudra aussi des ouvriers. Et puis, pour conduire les ouvriers, qu'est-ce qu'il faut? Des gens comme Joseph, hein? Et il faut des chefs, des gens qui contrôlent ce qui se fait. Vous avez compris à peu près. Ben, voilà, un petit peu, on a essayé de faire cela ensemble. Alors, nous arriverons maintenant à nos textes. Je crois que mon ami qui m'aide toujours, c'est moi qui avais effacé, je ne sais pas, je ne veux pas t'accuser. Mais il aurait fallu lire quand même aussi Ésaïe, mais vous l'avez lu, je crois, hein, au sujet de Cyrus. Hein. 44 ans, mais c'est probablement moi. Tu avais tout effacé hier soir? Oui, non. Mais tu vois, alors, ça ne m'est pas revenu. Sauf que, tout d'un coup, ça m'est revenu tout à l'heure, j'ai dit, j'aurais dû laisser Ésaïe. Mais je ne savais pas si c'était moi qui l'avais effacé. Enfin, c'est réglé? Bon. Alors, vous savez que l'histoire de Cyrus, c'est dans le chapitre 44. Enfin, depuis le chapitre 40, il est déjà question un peu de Cyrus, il n'est pas encore nommé, mais c'est dans le prophète Ésaïe, dont nous vous avons déjà parlé hier, que le nom de Cyrus est donné, donc avant sa naissance. Et nous lisons seulement verset 28. Je dis de Cyrus, du chapitre 44, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. C'est beau parce qu'il le met presque sur le même pied que Moïse, hein, auquel il a confié la construction de l'arche, et puis il savait que Moïse ferait exactement sa volonté. Et vous trouvez justement dans l'Exode que quand Moïse a édifié le tabernacle, il l'a édifié d'après le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne. Et il est toujours dit « comme l'Éternel le commanda à Moïse ». Toutes les parties du tabernacle, quand il a été monté, c'était toujours « comme l'Éternel l'avait dit à Moïse ».« Comme l'Éternel l'avait dit à Moïse ». Alors, vous pouvez faire toute une réunion avec ce simple mot, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Donc, vous voyez dans quelle dépendance. Il n'y avait rien des idées personnelles de Moïse. Dieu lui avait dit, tu feras cela comme je te l'ai montré. Est-ce qu'on peut faire mieux que Dieu? Alors,
comprenons-le, hein, abandonnons-nous à sa volonté. Elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Ça ne nous paraît pas toujours agréable, hein, mais ça c'est notre idée. Mais vous pouvez être sûr qu'elle est parfaite et qu'un jour vous direz que c'était agréable. Que tu m'aies conduit de cette manière. Mais alors n'attendez pas de savoir que tout était bien. Dites-lui, j'ai confiance et je te loue et tout ira bien. Comme la Tsunamite, son enfant était mort, était couché sur le lit d'Élysée, et quand on lui demandait des nouvelles, elle disait, tout va bien, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle allait parler à Élysée. Elle avait déjà confiance que son enfant vivrait. Alors, ayez aussi confiance. Au chapitre 45 d'Ésaïe, ainsi parle Cyrus à son loin. Loin, c'est le même mot que Messie en hébreu. Hein. Il est appelé son loin. À Cyrus, qu'il tient par la main. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ça, que Dieu peut tenir même un homme né dans le paganisme, il le tient par la main. Pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Qu'est-ce qui ouvre les portes? Même d'un roi. C'est le roi qui enfonce les portes. Même si vous êtes roi, c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Vous êtes comme dans l'Apocalypse. Il ouvre et il ferme. Afin qu'elle ne soit plus fermée. Vous voyez, c'est le Seigneur qui ouvre les portes pour qu'elle ne soit plus fermée. Alors, n'essayons pas, nous, de nous ouvrir nous-mêmes des portes. Et le Seigneur dit, je marcherai devant toi. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Je marcherai devant toi. Cyrus est pourtant appelé le berger. Et il y a des brebis qui suivent le berger. Mais devant le berger, il y a le souverain berger. C'est le Seigneur qui est le premier. Et ne donnez pas votre gloire à un autre. C'est Dieu qui est en premier. Puis, il peut nous appeler à un ministère, mais nous sommes derrière. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux ou les choses élevées. Et même si vous avez des portes d'airain, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer et je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connaisses. Et moi je pense que Daniel, qui avait les livres des prophètes, puisqu'il avait le livre de Jérémie, il devait avoir le livre d'Ésaïe qui avait été écrit avant Jérémie. Si le livre d'Ésaïe est un livre unique, hein, qu'il n'y a pas un second Ésaïe, et que, étant très ami avec Daniel, qui était le conseiller de Darius, qui était le beau-père de Cyrus, l'oncle et en même temps le beau-père, Daniel a pu montrer à Cyrus de Perse, lui qui avait connu Nebuchadnezzar, mais qui restait, vous voyez, les rois passent, mais les serviteurs du Seigneur, ils demeurent. Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, eh bien, est mort, mais Daniel est vivant. Un royaume a passé, mais le serviteur du Seigneur est encore là, parce qu'il a un témoignage à rendre. Alors Dieu maintient en vie ceux dont il a besoin. Et voilà qu'un homme comme Cyrus, qui est maintenant le roi de Perse, apprend que dans les livres hébreux, son nom s'y trouve. Et que c'est un certain Ésaïe qui a reçu cette révélation. Vous rendez-vous compte que ça peut faire un païen? Il y a des païens qui se convertissent. et puis de savoir que ce Dieu qui lui ordonne quelque chose est un Dieu qu'il aime et qu'il a pris dans sa main. Il est dans la main de Dieu. C'est quelque chose. Si Pilate avait su cela, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il n'ait été donné d'en haut. Mais Cyrus a compris que le pouvoir qu'il avait, il l'avait d'en haut. Et qu'est-ce que Dieu lui demandait? Il lui demandait de voir parmi tous les peuples sur lesquels il régnait un petit peuple, peut-être pas très intéressant toujours, mais qui était le peuple d'Israël, le peuple de Juda, qui était en captivité depuis 70 ans, sous les règnes des rois de Babylone, et que lui, Cyrus, roi de Perse, les Mèdes et les Perses avaient été réunifiés, maintenant qu'il était le chef de ce royaume réunifié, eh bien, tu vas accomplir mon dessein. Il aurait pu dire, mais non, mais moi, je n'ai pas d'ordre à recevoir du Dieu d'Israël, mais il le reconnaît comme étant le prédit. Alors, nous arrivons maintenant, vous voyez comme on est obligé d'aller prendre certains matériaux pour bien voir si ça correspond. Alors, nous arrivons dans la fin des chroniques, ou le premier chapitre d'Esdras, qui répète en quelque sorte les versets 22 et 23 du chapitre 36 des chroniques. Et j'espère au moins, j'ai beaucoup d'espérance, qu'il vous restera cette pensée qu'il y a des liens entre tous ces livres, comprenez-vous, et que vous pouvez trouver les bons matériaux dans tous ces livres pour construire quelque chose qui ne sera pas n'importe quoi, mais qui est pensé par un architecte qui est vraiment divin et qui a toute l'idée, qui a pensé à tout. Alors d'abord, évidemment, quand on amène des matériaux, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là avec tout ça? Ça a un but. Et peut-être que certains se sont dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils nous racontent là pendant ces premières journées? On voudrait qu'ils nous traitent son sujet. Oui. Je ne veux pas vous parler d'un édifice qui n'est pas encore construit. Il fallait rassembler. J'ai une ambition sainte, peu importe ce qu'on pense de moi. Ce qui compte, c'est que vous ayez reçu quelque chose. La première année de Cyrus. Maintenant, on sait qui est Cyrus. Hein? C'est celui qui a vaincu la grande capitale de Babylone. Hein? Et qui est maintenant le roi. Et alors, vous savez, par Daniel, là il faut revoir Daniel, qu'ils étaient ensemble. Daniel était encore là, et je prends le chapitre... premier de Daniel, verset 21, « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » On le trouvait supérieur à tous. Et puis, il en est parlé encore au chapitre 10, « La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. » Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de cette vision. Mais pour avoir l'intelligence de cette vision, il a prié, il a jeûné et Dieu lui a donné son secours pour la comprendre. Alors, vous comprenez, quand vous lisez la parole et qu'il y a un verset qui est difficile, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut prier. Daniel n'a pas tout compris tout de suite. Hein? Mais quand il ne comprenait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, pouf, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour moi. Il priait. Et le Seigneur lui révélait. Alors demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous... Ne soyez pas toujours des découragés. Ne pensez pas toujours que vous n'êtes pas capable. Bien sûr qu'on n'est pas capable. Je ne suis pas capable. Mais ma capacité, elle vient de Dieu. C'est ce que disait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait, vous savez, moi je suis très capable, j'ai étudié au pied du maître Gamaliel, qui était un des premiers de mon temps. Non, il ne disait pas ça. Et Moïse, c'est pas lui qui disait, moi j'ai eu toutes mes études dans les écoles égyptiennes. C'est le récit qui dit qu'il a été éduqué. Mais, au fond, Moïse, tout ce qu'il avait appris aux écoles égyptiennes, il a dû le désapprendre au désert, pendant 40 ans, et apprendre de Dieu qu'il avait mis simplement berger d'un troupeau. Des brebis les plus stupides qu'on puisse trouver. Des bêtes stupides. Hein. La brebis, on dit qu'elle est stupide. Hein. Oui. Ben oui. Ben il faut conduire des bêtes stupides pour apprendre quelque chose. Mais il a appris. Et il n'a pas tué les brebis. Il a aimé ses brebis au point de vouloir mourir lui aussi. Pour que ses brebis soient sauvées. Vous voyez tout cela. Alors, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par l'Éternel, et c'est cela que je voudrais que vous ayez aussi bien dans le cœur, les paroles de l'Éternel ont tôt ou tard leur accomplissement. Ce n'est pas vous qui pouvez réaliser les prophéties, mais quand l'heure est venue, rien n'empêchera Dieu d'agir. Mais il faut que ce soit l'heure. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Il y a des instruments. Jérémie avait été un instrument. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Qu'est-ce qui a fait l'œuvre? C'est Dieu. Vous voyez, il y a eu la parole, certainement, puisqu'on a lu dans Ésaïe, mais vous pouvez lire la Bible, puis rien comprendre. Vous pouvez comprendre même que vous devriez faire certaines choses, mais vous n'en avez pas le goût. Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une conviction? Il faut que vous soyez poigné, hein, comme vous dites. Quelque chose. Il faut que quelqu'un vous saisisse. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous saisit. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Donc, qui est l'auteur d'un réveil? C'est le Seigneur. Là, vous l'avez compris. Hein. C'est une direction. Un des caractères de réveil, c'est que c'est le Seigneur qui en est la source. On m'a demandé de résumer un peu. Eh bien, je vous donne ce point-là. Hein. Un réveil, c'est le Seigneur qui en est la source. Roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit. Vous voyez combien cela est important. Pas seulement de vive voix, mais par écrit. Parce que les paroles passent, mais les écrits restent. Une publication dans tout son royaume, pas seulement dans une partie du royaume. Quand il y a l'Esprit de Dieu, le réveil, c'est pour tout le royaume. Tous doivent entendre. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, donc il le nomme, et alors c'est là que vous devez relire ces chapitres 40, 41, 42, 43, 44, 45 d'Ésaïe pour vous montrer comment Dieu dit qu'il prouvera aux païens qu'il est Dieu. Parce qu'il sait tout d'avance. Et il peut tout prédire à l'avance. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les diseuses de bonne aventure, chez les devins, et dans tout ce monde-là. Et c'est lamentable de penser qu'il y a tant de gens qui sont chrétiens et évangéliques et qui vont consulter encore ces gens-là. Ils se mettent sous des puissances de ténèbres. Et après, s'ils font des dépressions, ce n'est pas étonnant. Il faut rompre, il faut fuir ces choses-là. Spiritisme et tout cela, c'est banni de la vie chrétienne. Prenez-le. Comme la parole de Dieu vous le dit, c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Or, on est baptisé et on commet des choses abominables. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Vous voyez pas, il dit, grâce à ma puissance, grâce à mon ingéniosité, j'ai réussi à vaincre Babylone, etc. Il ne parle pas de ce qu'il a fait. Il dit, c'est l'Éternel qui m'a donné tout ça. Et c'est beau, hein. Voilà des choses qui réjouissent le ciel. On ne parle pas de ce qu'on a fait soi-même, mais on parle de ce que le Seigneur a fait. Et c'est tout à fait Marie. Il a fait pour moi de grandes choses. C'est beau, hein. Vous pouvez y aller avec Marie. Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de Marie. Je ne comprends pas ça. Marie, c'est la mère bénie de notre Seigneur. Et elle a dit, il a fait pour moi de grandes choses. Est-ce qu'on peut dire la même chose, non? C'est pour ça que j'ai fait un parallèle entre ce qui s'est passé en Marie et notre nouvelle naissance. Le Seigneur est né aussi en nous, comprenez-vous? Il y a des lieux merveilleux. L'Éternel m'a donné et il m'a commandé. Oh, c'est formidable, ça. Il m'a commandé. C'est pas Daniel qui a commandé. Il a peut-être montré ce que j'ai dit, là, le texte d'Ésaïe. Mais lui, en lisant ce texte, il dit que Dieu le lui a commandé. Il a pris cette parole pour lui. Quand vous trouvez une parole dans l'Écriture, elle est pour qui? Pour votre cousin? Mais vous, on pense toujours que c'est pour quelqu'un d'autre, hein? Ou bien, on dit, oh, quel dommage que dans cette retraite, il n'y ait pas eu telle ou telle personne. Si c'est exactement pour lui, il n'y avait rien pour toi? Alors surtout, n'y revient pas. Vous comprenez? Personne ne vous oblige de venir ici. Mais si vous y venez, eh bien, sachez que le Seigneur a quelque chose à vous dire à vous. Puis les autres en bénéficieront. Vous voyez, l'enseignement qu'on peut recevoir de ces textes. Hein. Alors, verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? À qui l'appel de Cyrus s'adresse-t-il? À des gens qui sont de quel peuple? Du peuple de Dieu. Cyrus sait très bien que beaucoup de ses sujets ne croient pas au Dieu d'Israël. Mais maintenant, il s'adresse à ceux qui prétendent y croire. Au Dieu d'Israël, comprenez-vous? Comme aujourd'hui, il y a un tas de gens qui prétendent qu'ils croient au Seigneur Jésus, mais combien est-ce qu'ils le suivent? Dans toutes les églises, mais toutes les églises dites chrétiennes prétendent croire au Seigneur Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas une église chrétienne qui ne prétend pas croire au Seigneur Jésus. Mais au fond, qu'est-ce qu'il est ce Seigneur? Dans l'église, dans la communauté, dans les foyers de ceux qui forment l'Église et dans la vie personnelle des membres. Qui d'entre vous est de son peuple? Et alors, c'est tellement beau, hein? Tout à coup, c'est lui qui devient l'instrument de réveil, une bénédiction. Que son Dieu soit avec lui. Que Dieu te bénisse, que son peuple, alléluia, hein? Que ton Dieu te bénisse. Tu sais, tu es du peuple de Dieu, tu es du peuple élu, mais c'est merveilleux. Que ton Dieu soit avec toi. Que son Dieu soit avec lui. Et puis maintenant, qu'il monte. Il n'a pas dit qu'il descende. Qu'il monte à Jérusalem, en Juda. Oui, mais c'est tout un voyage. Puis il y a beaucoup de périls. Puis qu'est-ce que sera le transport? Il n'y a pas encore les 747. C'est ce que c'est qu'un 747. Hein? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et puis là, qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Mais avec quelle finance? Vous croyez qu'ils n'ont pas des questions à se poser, ces gens-là? J'ai bâti ma maison, je suis bien ici, puis maintenant il faut partir. Mais on est des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Il n'est pas dit une nouvelle maison pour lui, mais il faut monter avec un but précis. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas pour se bâtir une nouvelle villa dans son pays. C'est pour bâtir la maison de l'Éternel. Ça en premier. Après, il y aura vos maisons. Mais les intérêts du Seigneur doivent passer en premier. Et voyez-vous, si vous mettiez les intérêts du Seigneur en premier, vous verriez que lui s'occupe des vôtres. Un jour, le Seigneur m'a dit textuellement, « Occupe-toi de moi, et moi je m'occuperai de toi. » Est-ce que c'était vraiment une parole du Seigneur? Il n'y a qu'à contrôler par l'Écriture. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, on a le contrôle, hein, pour savoir si ça vient du Seigneur ou de notre imagination. Et le Seigneur ne nous trompe pas. Et ses brebis connaissent sa voix. Ce n'est pas des voix comme Jeanne d'Arc, mais c'est des voix intérieures. Une voix intérieure qui vous donne la conviction. Vous l'entendez dans votre cœur. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et il ajoute, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il ne veut pas qu'on se trompe. Hein. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Aujourd'hui, on dit pourvu que vous soyez sincère, que ce soit le Dalai Lama, que ce soit Bouddha, Mahomet, tout ce que vous voulez, tout est bon, n'est-ce pas? Et réunissons-nous tous ensemble, à Assise ou ailleurs, peu importe, on est tous ensemble, nous sommes tous des croyants, etc. Attention, attention, il ne suffit pas d'être sincère, il faut être dans la vérité. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple, parce que Cyrus sait très bien que le peuple a été décimé, que beaucoup sont morts, il y a un résidu, il y a un reste, des restes du peuple. Les gens du lieu leur donneront de l'argent. Je ne sais pas que c'est fantastique. C'est l'ordre du roi de dire aux gens du lieu, à ceux qui ne partiront pas, de donner de l'argent. Il y en a qui resteront, hein. Mais que les gens du lieu donnent, financent le voyage. Ils ont une responsabilité. Peut-être qu'eux ne monteront pas, mais ils ont à aider ceux qui vont y monter. C'est un peu comme les Égyptiens qui ont dû donner pour Israël, quand Israël est parti d'Égypte. Les gens du lieu donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires. Il y avait donc un ordre, comme si vous vouliez une espèce d'impôt, hein, obligatoire, mais il y avait en plus de ça les offrandes volontaires. Pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, on continue. Les chefs de famille et de Judas et de Benjamin, parce que c'était les deux tribus donc, les sacrificateurs, et vous voyez, les chefs de famille, il y avait des chefs de famille, puis il y avait les sacrificateurs qui étaient en captivité, les lévites, ceux qui aidaient les sacrificateurs, c'est toute une tribu, hein. Tous ceux dont Dieu réveilla, c'est pas n'importe qui, comprenez-vous, vous ne pouvez pas dire on prend tout le monde, on embarque, non, non, on ne prend pas tout le monde, ceux dont Dieu réveilla l'esprit, c'est pas moi qui peux réveiller l'esprit, c'est Dieu qui peut réveiller votre esprit, et c'est pas moi qui peux vous faire vous lever. Ils se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc ils savaient où ils allaient et ils savaient ce qu'ils auraient à faire. Ils n'allaient pas au petit bonheur la chance. Quand j'entends des gens et même des prédicateurs dire que la foi c'est une aventure, c'est pas vrai. La foi n'est jamais une aventure. La foi est une obéissant. Il a parlé et on obéit à une parole. On ne va pas à l'aventure. Abraham, lui, il n'est pas parti comme ça sur un coup de tête. Dieu lui avait dit, sors de ton pays et de ta parenté. Mais il lui a pas dit où il irait d'abord. Hein. Mais sors de ton pays, c'est d'abord l'obéissance, de ton pays de ta parenté, pour aller au pays que je te montrerai. Le Seigneur nous montre dans le chemin la voie que nous devons suivre. Parce qu'on a tellement peu de mémoire qu'on pourrait s'égarer. Alors il est d'étape en étape avec nous pour la station, l'étape suivante. C'est ça qui est merveilleux. Alors, tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Vous voyez que quand Dieu est à l'œuvre, les moyens financiers, ils sont donnés. C'est cela qui nous touche. Et, voyez-vous, c'est ça, être à l'école de la parole, ça nous imprègne, et ça nous amène à agir de cette manière-là. Mais si vous n'avez pas de cela, bien évidemment, vous avez toutes sortes d'autres enseignements. Même dans les écoles bibliques, on vous enseigne autre chose. Et on vous dit que pour que vous soyez supporté, il faut que vous fassiez ceci, que vous fassiez cela. Hein? Vous pouvez faire ça. Mais quand vous revenez à la parole, vous voyez qu'il y a un autre enseignement. Et que si on s'y tient, le Seigneur honore sa parole, parce qu'il veut que vous y croyez, et il veut que vous puissiez dire, c'est vrai, j'en ai vécu, et si je te dis cela, c'est parce que le Seigneur l'a fait pour moi. Prenez-moi pour un menteur, pour un illuminé, pour tout ce que vous voulez, ça c'est votre affaire, mais j'ai à dire ce que la parole dit. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel. Vous voyez comme c'est beau. Il y avait un autre roi qui avait amené tous les trésors dans la ville de Babylone, et Cyrus, qui demande aux gens de donner, qu'est-ce qu'il fait lui? Il donne. Il est l'exemple. Il rend tout ce qui a été pris. Et alors là, il y a des choses fantastiques. Et voici le nombre. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui les rendit à Shesbatsar. Vous voyez, c'est des gens responsables. On a des ministres ici, hein, aussi au Québec et ailleurs. Mais est-ce que ce sont des responsables? Et ils doivent rendre des comptes. Parce que c'est des trésors qui passent dans leurs mains. Prince de Juda. C'est des gens qui sont connus. En voici le nombre, donc on les a comptés. Alors je ne veux pas m'allonger là-dessus, mais 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, figurez-vous pas, 29, non. 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent, de second ordre, il y a des qualités hein, dans l'argent. 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Faites ce calcul, faites les additions. Shesbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Et puis quand on arrivait à Jérusalem, hein, qu'est-ce qu'on faisait? On recomptait tout ça. Et il ne manquait rien. Malgré les brigands qui auraient pu venir faire des attaques sur le chemin, comme on le verra dans... plus loin, pas aujourd'hui. Alors voici le chapitre 2. Voici ceux des provinces qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, attends, vous savez qui était cet homme, avait emmené captifs de Babylone et qui retournèrent à Jérusalem en Juda, chacun dans sa ville. Alors, vous voyez ce qui est merveilleux. La captivité de Babylone a commencé la première année du roi Nebuchadnezzar. Mais je vous ai montré qu'il y avait eu 3 déportations. Mais la première déportation a commencé la première année du roi Nebuchadnezzar. Et il a emmené les trésors. Et quelques sages de Jérusalem, des jeunes gens très beaux, dont Daniel. Puis, le peuple ne s'étant pas repenti, il y a eu une deuxième attaque, deuxième captivité, et finalement une troisième qui a été la destruction de Jérusalem. Alors maintenant, il y a le premier retour du reste, qui va remonter à Jérusalem. Mais vous verrez, dans le chapitre 6 et 7, il y a un second retour qui est conduit par Esdras, hein, parce qu'il fallait qu'il soit enseigné. Puis ensuite, dans Néhémie, il y a un troisième retour pour reconstruire les murailles. Comme il y a eu trois étapes qui ont conduit à la captivité, vous avez trois étapes qui conduisent à la restauration. C'est très frappant de voir tout cet ordre. Alors, ils partirent. Alors là, vous avez les noms des chefs. Zorobabel, qui était de la descendance de David. Josué, le sacrificateur, qui est appelé ici Josué. Néhémie, Séraga. Alors, vous avez tous ces noms, je vous en fais grâce. Et vous avez ensuite des sacrificateurs, 36 à 39. Les chambres, je vous ai dit que c'était important dans un réveil. Il y a aussi les descendants serviteurs de Salomon. Il y a alors les sacrificateurs qui ont été exclus du service. Versets 61 à 63 qui donnent la réponse, enfin pas tout à fait, hein, mais pourquoi certaines personnes furent-elles exclues du sacerdoce? Bien, vous avez le pourquoi, hein. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils d'Abaza, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, parce qu'ils devaient prouver qu'ils étaient de la race israélite et sacrificateurs. Mais ils ne les trouvèrent point. Il y a des négligents. Alors on les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Alors vous vous dites, qu'est-ce que c'est cette histoire, l'Urim et le Thummim? Bon, ben, je ne voulais pas vous le dire tout de suite. Et il faudrait alors que je vous lise tous ces textes. C'est dans l'Exode, au chapitre 28, verset 20, que vous trouvez la première mention de l'Urim et du Thummim. L'Urim veut dire lumière, et puis Thummim veut dire perfection. Et ça se trouvait sur le pectoral de l'éphod, qui était la robe du sacrificateur. Le souverain sacrificateur avait sur sa robe une espèce de rectangle dans lequel se trouvaient 12 pierres précieuses. Et qu'est-ce qui était gravé sur ces 12 pierres aux reflets multiples? Les noms des 12 tribus. Et c'est là qu'il y avait ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim, lumière et perfection. Et ce que l'on pense, là je ne vais pas vous citer tous les autres passages, c'est que quand on consultait le Seigneur, ou enfin quand le souverain sacrificateur présent allait devant le Seigneur, eh bien, il y avait une lumière qui se manifestait et il connaissait la volonté de Dieu par cette lumière. Mais c'était le peuple d'Israël qui était enseigné par Dieu. Alors, on consultait justement l'Urim et le Thummim, c'est-à-dire les faux du sacrificateur pour connaître la volonté de Dieu. C'était quelque chose de visible. Et David l'a fait aussi. Mais, évidemment, tout cela a été perdu. Et quand Zorobabel est remonté, et qu'il y a eu une difficulté pour savoir, parce que ils auraient pu, s'il y avait eu l'Urim et Thummim, savoir si vraiment ces gens étaient réellement de la race sacerdotale. Mais comme ils ne pouvaient pas en donner les preuves, alors on a dit, on attendra qu'il y ait un souverain sacrificateur avec l'Urim et Thummim. Mais ça n'est jamais venu. Ça n'est jamais venu dans la restauration. Alors, qu'est-ce qui a été donné à l'Église pour connaître la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons maintenant discerner ce qui était donné par l'Urim et le Thummim, si vraiment telle personne est au Seigneur ou ne l'est pas. Si vraiment elle peut s'approcher de la table du Seigneur ou si elle n'est pas en état. Par exemple, l'apôtre Pierre a discerné que dans le cœur d'un type qui était pourtant baptisé, il s'appelait comment? Ananias, oui, mais encore un autre. Simon, le magicien, qui s'était converti, n'est-ce pas, et qui voulait, il aurait voulu avoir lui aussi le Saint-Esprit pour pouvoir, comme Pierre et Jean, et poser les mains et distribuer le Saint-Esprit à tous ceux qui lui paieraient quelque chose. Alors, l'apôtre Pierre, discernant lui ce qu'il y a dans son cœur, il n'a pas besoin de l'Urim et du Thummim, il a le Saint-Esprit, Pierre. Hein. Et puis, il lui dit, n'est-ce pas, qu'il est rempli de fiel et de méchanceté, et qu'il a voulu acheter avec de l'argent ce qui est donné par le Seigneur. Alors, donc, je ne veux pas m'allonger sur l'Urim et le Thummim, c'est simplement, je vous dis ce que ça veut dire, l'Urim, lumière, et puis perfection, et c'était quelque chose qui se trouvait sur le pectoral de l'éphod. Au fond, le sacrificateur, quand il se présentait devant le Seigneur, il portait sur son cœur les noms des 12 tribus, et puis il les portait aussi sur ses épaules, parce qu'il y avait deux épaulettes sur l'éphod du sacrificateur et sur les deux pierres d'onyx qui étaient sur les épaulettes, il y avait le nom aussi des 12 tribus. Alors, cela montrait que quand le sacrificateur allait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, une fois par an seulement, eh bien, il présentait sur ses épaules, il était chargé du peuple, et aussi dans ses affections, sur son cœur. Et qui est notre grand souverain sacrificateur? C'est Jésus. Et il nous porte sur son cœur, dans le ciel, et aussi sur ses épaules. Il est notre souverain berger. Alors, quand vous avez des mots comme ça, ne vous arrêtez pas éternellement là-dessus. Attendez que Dieu vous donne de la lumière. Hein? L'Urim est humide, lumière est perfection, mais ça n'a pas été redonné. Alors, nous passons plus loin, mais il y a un discernement qui nous montre que donner la Sainte Cène n'importe quand et à n'importe qui, ce n'est pas cela qui est biblique. Il y a une discipline, ça c'est vrai. Et quelquefois, quand je vois les gens qui s'avancent, je ne regarde pas ici, n'est-ce pas, mais dans certains lieux, c'est tout. Comment est-ce qu'on peut aller communier comme ça? Puis après, on dit n'importe quoi. On a besoin d'une réforme, on a besoin de revenir à ces choses. On prétend qu'on a pris le corps, le sang du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait après? On n'est pas dehors que déjà, on fait de la boucane. On enfume le Seigneur. Nous devons faire attention. Laissez-vous convaincre par le Seigneur. Alors voilà, on arrive. Chapitre 3. Ils sont partis. Mais vous remarquerez encore, vous ferez le compte. Il y a le nombre de gens qui est noté et le nombre aussi de quoi ? Des animaux, parce qu'il fallait les transporter. Mais il n'y en avait pas pour tout le monde, des animaux. Alors, il y en a qui devaient aller à pied,
puis je pense qu'on changeait, hein.
Puis on mettait les enfants sur les chameaux, on mettait les enfants sur les ânes, les femmes aussi, puis de temps en temps, ben, on changeait. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs, leurs servantes, au nombre de 7337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, etc. Alors là, vous avez le nombre des chevaux, le nombre des ânes et le nombre des chameaux. Avec leur plaque minéralogique. Bon. Eh bien, voilà, les enfants, mais c'est passionnant de lire l'écriture. Si vous dites, oh, c'est un vieux livre. Oui, mais vous pouvez le voir d'une façon moderne aussi. Alors, ils sont arrivés, et la première chose, alors qu'ils ont fait, le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville, alors le peuple s'assembla. On se rassemble. On n'y est pas allé pour soi, pour ça. On est venu pour être ensemble. Comme cet après-midi, nous serons ensemble. Nous sommes venus pour être ensemble. Et on s'assemble. Josué, fils de Josadac, le sacrificateur, avec ses frères les sacrificateurs, Zorobabel, fils de Séaltiel, qui aurait dû avoir la royauté, avec ses frères, se levèrent, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti l'autel du Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que c'était l'autel? Je vous l'ai dit au début, c'était l'autel d'airain où l'on offrait les sacrifices. Parce que tout le culte est basé sur le sacrifice. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans passer par l'autel. C'est à l'autel qu'on offrait la victime. C'était l'homme qui aurait dû mourir. Mais Dieu, dans son amour, lui permettait d'offrir à sa place une victime, mais qui devait être sans défaut, sans tache. Il y avait des règles. Il ne fallait pas apporter une bête boiteuse. Alors, on apportait la victime, on mettait les mains, le pécheur mettait ses mains sur la victime et il confessait ses péchés. Et on égorgeait la victime. Mais qui est-ce qui aurait dû être égorgé? C'est le pécheur, hein, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu lui donnait une victime, mais qui mourait à sa place. Mais le sang des agneaux, des taureaux et des boucs ne pouvait pas effacer à tout jamais le péché. Il fallait chaque fois recommencer, mais cela préparait le peuple à un plus précieux sang qui serait le sang de qui? De Jésus. Et c'est pour ça, si Jésus voulait être ce qu'avait annoncé Jean-Baptiste quand il l'a vu, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il fallait que le Christ souffrit ces choses. Il fallait que le Christ meure. Parce que sans la mort de Christ, nous ne serions pas sauvés. Et ici, je le dis avec force, ce ne sont pas les paroles de Jésus qui nous ont sauvés. Ce ne sont pas ces merveilleux messages que vous aimez, les béatitudes sur lesquelles beaucoup aiment à prêcher. Ce ne sont pas les belles paraboles qui sauvent, quoique Dieu emploie tous les moyens, n'est-ce pas? Mais ce qui sauve l'humanité, c'est la mort de Jésus. Ce n'est pas la vie de Jésus qui vous a sauvé. Parce que si la vie de Jésus, si Jésus n'avait pas donné sa vie, il n'y aurait qu'une vie de Jésus. Et il aurait donné un exemple, il serait remonté au ciel depuis la montagne de la Transfiguration, en nous disant, ben voilà, je vous ai donné un exemple, faites comme j'ai fait. Qu'est-ce qui arriverait? Nous qui n'étions pas même capables d'accomplir la loi, qui nous sentons culpabilisés par la loi de Moïse, si nous devons avoir la vie de Jésus à imiter, c'est une vie inimitable. Nous sommes perdus. Alors Jésus n'a pas seulement donné un modèle de vie, mais cette vie, il a voulu qu'elle soit la nôtre. Et c'est là la parole du grain de blé. Si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, il n'y aurait qu'une vie de Jésus. Mais Jésus est mort, et de cette mort est sortie nos propres vies. Comprenez-vous? C'est de sa mort que nous avons la vie. Il est mort pour nos péchés, pour effacer la question du péché. Alors, voilà, dans un réveil, ça commence comme cela. On prêche la croix. On montre que c'est que sans la croix, il n'y a pas de pardon. C'est l'évangélisation. Dans sa simplicité, vous êtes pécheurs, mais Jésus est venu. Il a pris les péchés qui étaient sur vous et qui méritaient la condamnation et la mort. C'est lui qui a subi la condamnation et la mort. Donc la peine de vos péchés, c'est Jésus qui l'a subi. Est-ce que vous la subirez encore? Non. Nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie, nous ne viendrons pas en jugement. Quelqu'un a été jugé pour nous. Ça, c'est fait par sa mort. Mais il ne fallait pas seulement que Jésus meure pour nos fautes. Mais il nous a pris nous-mêmes, nous les pécheurs, dans sa mort, pour que nous ayons une vie nouvelle dans sa résurrection. Alors, c'est là l'image du baptême. Quand nous faisons baptiser, eh bien, nous confessons simplement que comme Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Mais que comme Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités. Donc, pour nous, le baptême, c'est la fin de notre vie passée, parce que Jésus, s'il est mort, il est mort à cause de nos péchés. Il était sans péché. S'il est mort, c'est à cause de nos péchés. Mais comme il est ressuscité, nous ayant tellement aimé, il s'est identifié à nous dans notre péché, il a été fait péché pour nous, voilà ce que dit l'Écriture, vous comprenez pourquoi est-ce que nous avons si peu d'adoration quand nous pensons à ce qu'il a fait pour nous. Il a été traité comme si c'était lui qui avait commis toutes nos abominations, toutes les pensées qui peuvent vous traverser, qui vous font honte et qui me font honte à moi aussi, eh bien tout cela, il a tout pris cela comme si c'était lui qui pensait ces choses-là et qui avait fait ces choses-là. Et il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Dieu n'a pas passé sur nos péchés quand il les a vus sur Jésus. Il a été frappé. Mais Jésus, étant le prince de la vie, étant sans péché en lui-même, a vaincu la mort. Et il en est sorti victorieux. Il est vivant, mais il n'est pas sorti tout seul, il nous a pris avec lui. Il nous a pris dans sa mort, mais il nous a pris aussi dans sa résurrection. Et non seulement dans sa résurrection, mais dans son élévation dans la gloire, de sorte que dans les Éphésiens, nous sommes déjà considérés comme assis dans les lieux célestes en Christ, nous sommes déjà dans le repos là où il est, en attendant la glorification de nos corps, car Jésus nous a sauvés entièrement, et il veut aussi que nos corps mortels connaissent un jour l'immortalité, nous serons semblables à lui. Alors, si nous sommes encore sur la terre, c'est parce que Dieu, pour un temps, nous redonne à la terre, mais nous venons d'où? Du ciel. Notre vraie patrie, elle est dans les cieux. Et si nous sommes sur la terre maintenant, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes comme des envoyés d'en haut. Une fois que vous êtes convertis, comprenez le bien, vous êtes du ciel sur la terre. Alors vivez déjà un peu cette atmosphère du ciel pour l'apporter sur la terre autour de vous. C'est bien beau de dire « Viens m'apprendre à t'aimer comme on t'aime » au ciel. Eh bien, visitez un peu les choses célestes. J'ai fait une retraite à l'Institut Bethel au début de cette année, justement sur ces choses célestes que nous connaissons si peu. Et alors, si nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas en parler, et surtout, nous ne les manifestons guère. On a toujours son même caractère, on est toujours colérique, on est toujours ceci, on est toujours ça. Mais vous êtes mort à tout cela. et vous êtes restitué. Alors c'est par la foi. Oui, c'est par la foi. Vous voyez qu'on n'est pas seulement sauvé une fois par la foi, mais tous les jours, le juste vivra de foi, par la foi, de foi en foi. Je m'empare de ces promesses. Et alors, nous avançons. De sorte que vous voyez, remettre l'autel sur ses bases, c'est remettre vraiment la croix à sa vraie place. Au moins, je suis chrétien, maintenant je m'achète une croix. Mais une croix, c'est pas une décoration. Oh, j'ai rien là contre, gardez vos croix, ça m'est égal, si vous aimez ça. Mais, voyez-vous, la croix. J'ai dit ça une fois à des chères sœurs. J'ai dit, vous savez, au fond, qu'est-ce que ça représente, la croix? C'est un objet d'ignominie. Pourquoi ce n'est pas une petite guillotine? Ou bien une potence? Bien une fringue, puisqu'on les endort maintenant comme ça. Oui, oui. Alors, ça c'est lui, hein. On le reconnaît. J'ai demandé à ma femme de l'enlever. Bon. Qu'elle mange le crocodile. Je m'excuse, c'est une marque. Hein. Bon. Et on pourrait dire de la bête, mieux ça. Hein. Il faut savoir rire, hein. S'il n'y a pas d'humour, on ne va pas au ciel. Alors, mais et comprenons, en revenant à des choses très sérieuses, hein. C'est la croix. Eh bien, la croix a sa place. C'est pas seulement sur le sommet des montagnes, dans toutes les villes. C'est une chose qui vous impressionne quand vous venez pour la première fois au Canada. On voit des croix partout. Oh, en Suisse aussi, on en a au sommet des montagnes. Hein. On en a dans les vitrines des bijoutiers, et on a sur les poitrines des élégants, tout ce que vous voulez. Mais la croix, elle doit être dans notre vie. Et qu'est-ce que c'est que la croix? C'est un instrument qui crucifie. Qui nous crucifie. Mais nous sommes des décloués. Vous connaissez les chrétiens décloués? Oui, oui, hein. Tu me frappes? Ah ben ça, c'est pour les juifs. Moi, je ne tends pas l'autre. C'est pourtant ce qu'on devrait faire si on veut suivre la doctrine de Jésus. Alors, ne soyons pas des chrétiens écloués. Soyons bien cloués à la croix, et même plus que ça, ensevelis, qu'on ne nous voit plus, ensevelis avec Christ, pour qu'on voit Jésus ressuscité. Et c'est ça le plus grand moyen d'évangélisation. Le réveil, il vient quand la croix a retrouvé sa place, quand l'autel est sur ses bases, hein. Quand on a retrouvé la vraie place que doit occuper l'autel, qui est l'autel du sacrifice. Et qu'est-ce qu'on offre comme sacrifice? C'est très frappant. On n'offre pas des sacrifices pour le péché, c'est des sacrifices qui sont des holocaustes. L'holocauste tout entier, c'est ça l'adoration, c'est ça le culte. Le centre du culte, c'est l'adoration. On ne vient pas parler de nos péchés au culte. Nos péchés, ils ont été effacés. On vient parler de celui qui a tout accompli. Et on s'offre soi-même en holocauste vivant, saint, agréable à Dieu. On lui dit, Seigneur, je m'en vais prendre place à ta table. Je m'en vais communier à ton corps, à ton sang, mais cela veut dire que toute ma vie t'est consacrée. C'est pas seulement au baptême, mais chaque fois que nous communions, nous renouvelons non pas le sacrifice de Christ, mais notre consécration au Seigneur, en lui disant aussi réellement que le pain entre en moi et que le vin, que je bois le vin, je confesse que tu n'es plus extérieur à ma vie, mais que tu m'es intérieur, pour regarder par mes yeux, pour écouter par mes oreilles, pour parler par ma langue, pour servir par mes mains, pour marcher par mes pieds, pour aimer par mon cœur. Comprenez-vous cela? Alors, il y a une bénédiction à la table du Seigneur. C'est pas simplement faire un geste. Hein. On prend ce morceau de pain, puis voilà, on le mange. C'est pas cela. mais par-delà ces éléments, nous sommes en communion réelle avec le Seigneur et nous confessons que nous sommes prêts à tout souffrir. Comme lui a souffert, nous avons communion à ses souffrances, mais que ces souffrances, eh bien, nous les traverserons par la puissance de sa résurrection. J'entre dans la communion de ses souffrances par la puissance de sa résurrection. J'ai besoin de puissance, mais pourquoi ? Pour faire des miracles, pour faire toutes espèces de choses qui feront parler de moi ? Non, pour être un chrétien. Vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de la puissance de l'Esprit pour vivre en authentique chrétien, parce qu'autrement vous ne pouvez pas. Alors laissez le Christ vivre en vous. Et un autre sens de la croix, et pour moi c'est cela qui est la base de notre unité chrétienne, Jésus est mort, lisons-nous, pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. C'est Caïphe qui disait cela. Qu'il fallait que le Christ meure. Non, c'est les gens qui commentent la parole de Caïphe, n'est-ce pas ? Caïphe dit, jugez plutôt, il est préférable qu'un seul meure pour que toute la nation vive. Hein. Et alors, le commentaire dit, il n'a pas dit ça de lui-même, même Caïphe, hein. Mais il a prophétisé que Jésus devait mourir pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. C'est pourquoi nous croyons qu'à la table du Seigneur devrait se manifester l'unité du corps de Christ. Et cette table du Seigneur étant la croix, nous croyons que c'est en prêchant la croix et en aimant le Seigneur crucifié, mort pour nous, que nous nous rapprochons les uns des autres. Car quand vous êtes au pied de la croix, quand dans un culte, au lieu de regarder le frère, la sœur, qui est-ce qui est là, cette personne, de quel chapeau nouveau est-ce qu'elle est là, celle-là, puis elle a encore une autre robe, et ils ont de l'argent ces gens-là, alors voilà, hein, les pensées qu'on a dans le culte. Parce que le culte, hein, c'est le moment où on sort ses atouts. Alors, non, c'est pas ça. Libérons-nous de cela, purifions-nous de toutes ces choses-là pour penser réellement au sacrifice du Seigneur Jésus. Et quand je vois comment il a souffert pour moi, puis je regarde mon frère, ma soeur, j'ai d'autres yeux pour le voir. Le Seigneur l'a aimé comme il m'a aimé. Alors on voit notre frère avec les yeux de Christ. Quand vous avez regardé Christ, vous pouvez regarder votre frère. Parce que quand j'ai regardé Christ, j'ai vu mon cœur. Et puis, alors, je me dis, il nous a rassemblés, il nous a rapprochés. Nous étions tous des pécheurs, nous étions tous damnés, nous étions tous condamnés. Puis il nous a rassemblés. Alors il y a de la joie. Et nous louons le Seigneur, nous le bénissons. Il est mort pour rassembler en eux les enfants de Dieu dispersés. Par sa mort, il a triomphé de toutes les puissances qui nous étaient contraires. Le péché ne dominera plus sur vous. Il a triomphé des puissances sataniques. Il les a exposées en public, triomphant d'elles à la croix. Alors, vous pouvez développer tout cela. L'autel sur ses bases, remettre la croix dans son centre, sur ses bases. Et alors, après, on pourra parler de la maison et de construire, hein, la maison. Quand la croix est de nouveau considérée comme le seul remède pour nous. Sans la croix, il n'est pas possible de lui plaire. Mais la croix ne doit plus être un ornement, mais un élément qui nous crucifie. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est ça la délivrance de la croix, comprenez-vous ? L'autel sur ses bases, c'est remettre cette vérité à son centre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie chrétienne, moi je ne peux pas la réaliser, mais lui peut la réaliser en moi. Et c'est ce que Marie a accepté. C'est pourquoi je parle souvent d'elle, pour montrer la leçon qu'elle nous donne, que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en elle. Eh bien, cette œuvre peut s'accomplir aussi en vous, pour que ce qui sera manifesté de votre vie, ce soit Jésus et Jésus seul. Il ne vire plus personne, sinon Jésus et Jésus seul. C'était le premier volet de notre retraite sur quels sont les caractères d'un réveil spirituel, l'autel sur son fondement. Après, on parlera de l'église, hein, la maison, sur son emplacement. Il faut commencer par là. Mais il y a toutes sortes d'éléments encore. Nous en reparlerons peut-être deux mots cet après-midi en parlant aussi des vierges. Dieu notre Père, nous voulons te demander que ce que nous venons, que des fleurs qui nous permettent de méditer, et même s'il y a des choses que nous n'avons pas compris, que nous nous souvenions de Marie, qui ne comprenait pas même les paroles de son fils, mais qui les gardait dans son cœur, et qui les a comprises plus tard. Ô Seigneur Jésus, tu veux nous parler de la nécessité de ta mort. Il fallait que tu souffres, Jésus. Montre-nous combien nous te sommes redevables pour que nous ne gardions plus notre vie pour nous-mêmes, pour que nous ne nous contentions pas d'avoir compris le salut, que nous n'irions pas en enfer, mais de comprendre que le salut, c'est quelqu'un, c'est toi dans nos vies. C'est cela être sauvé. Ô Seigneur Jésus, tu veux vivre en nous, et le monde a besoin de ces hommes, de ces femmes en qui tu habites, qui sont le reflet de ta volonté. Nous savons très bien que nous pouvons distribuer des Bibles, que nous pouvons donner des traités, mais donne-nous de comprendre que nous devons être un traité, que nous devons devenir par nos vies, par notre attitude, des Bibles vivantes, que le monde verra et peut-être sera attiré pour lire ta parole. Nous ne pouvons pas toujours dire aux gens de lire la Bible puisqu'ils n'ont pas de goût. Mais si nous sommes le sel de la terre, accorde-nous de donner le goût des choses de Dieu au monde par notre vie, en ayant du sel en nous-mêmes. C'est la grâce que nous te demandons avant de prendre ce repas, en te louant et en te bénissant, et en te demandant que notre fin de retrait soit encore bien meilleure que n'a été son commencement. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.